RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
RMC Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit en direct, bien sûr, comme tous les soirs. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur RMC Sport News, comme tous les lundis, pour deux heures de foot dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Attention, le casting ce soir est là. Pierre Ducrot, un habitué, taulier du lundi, salut.
Bonsoir,
Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et ce soir, Ludovic Obraniak qui est avec nous, salut Ludo.
Le nouveau du lundi.
Le nouveau du lundi.
Très heureux.
Exactement.
Salut, bah, pareil Pierre.
Vous avez joué l'un contre l'autre?
Jamais, c'est la première fois qu'on est ensemble.
Ouais, première fois. Alors, jouer l'un contre l'autre?
Non, toi, t'as plus vieux.
Ah, sûrement, non.
Ah, si, on a joué l'un contre l'autre.
Bah, attendez, j'ai pas le.
Ça va. Non, mais non,
j'ai arrêté en 2011, pas en 2001.
Non, t'es resté jusqu'à. Ouais. Non, si.
C'est sûr qu'on
avec Lille, je pense.
Ouais. Ouais, faudrait qu'on vérifie.
C'est une bonne paire, milieu défensif, milieu offensif.
Un bon MSPSG.
Complémentaire,
ouais. Ouais, ça aurait pu marcher.
Toi, t'as aussi fait la défense centrale un peu, toi.
Ouais, j'aurais pu être le porteur d'eau de Ludo. Ça m'aurait pas dérangé.
Bon, c'est ça le sens du sacrifice. Bah, bon, bravo.
Ça fait ce Ludo Cocha, c'est un peu plus prestigieux.
Ouais, non, c'est. Mais moi, ça m'a jamais dérangé justement de cavaler pour des joueurs comme Ludo, comme Cocha. Tu cites Cocha ou d'autres. Ouais, parce que je savais pas faire ce qu'il faisait tout simplement. Eh oui.
Messieurs, l'événement dans l'after ce soir, c'est Lyon, bien sûr, car la semaine de Ligue des Champions s'ouvre demain avec donc ce match Lyon-Barça. Toutes les infos donc à suivre dans quelques instants avec Edouard G qui va nous donner la compo de demain. Avant et après ça, bien sûr, Lyon avec Jean-Michel Aulas qui veut gagner la Ligue des Champions avant de s'en aller. Il se donne quelques années, il se donne 5 ans, je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. L'avis de Ludo concernera d'ailleurs le match de demain. Pierre, toi tu veux parler de Balotelli ce soir. Ben, ça tombe bien, on a fait déjà le débat tout à l'heure dans Team Dugas, donc je pourrais te relayer l'avis de Dugas sur
vous écouter,
l'éventuel avenir de Balotelli à l'OM. On parlera également de Mbappé en numéro 9 et puis les drôles de l'âme à 23h, bien sûr, comme tous les lundis, vous le savez, le foot européen est là et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions aux drôles de l'âme au 32-16 pour nous appeler, hashtag RMC Live sur Twitter et Direct Studio sur l'appli gratuite RMC Sport. Vous téléchargez l'appli, vous avez tous les scores, toute l'info du jour et vous appuyez sur la petite radio en haut à droite et là vous pouvez envoyer vos messages. N'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et puis on a un direct ce soir, le match de Ligue 2 du lundi, c'est Metz-Béziers. Sébastien Ruffet, bonsoir.
Bonsoir messieurs, toujours 0-0 alors qu'on approche de l'heure de jeu entre le leader de la Ligue 2 Metz et le 18e et actuel barragiste Béziers. Et il s'est passé des choses avec notamment une barre transversale touchée par les Messins et surtout ce carton rouge à l'encontre d'Opa Nguet, auteur d'un vilain tacle, il est vrai, tout à l'heure sur Etou. Et du coup, eh bien, les joueurs de Béziers vont finir cette partie, cette dernière demi-heure à 11 contre 10. Ça peut être la grosse cote, on va dire, en cas de bons résultats des Biterrois. Mais on le rappelle, ils n'ont gagné que 5 fois cette saison. Et les 5 fois, c'était à l'extérieur. Alors pourquoi pas. Et un nouveau carton jaune distribué par Monsieur Varela. C'est en train de devenir très, très tendu sur la pelouse. Les tacles sont de plus en plus costauds. Je sais pas comment ça va se finir, mais bon, pour l'instant, toujours 0-0 entre Metz et Béziers.
Attention, tu es écouté par une légende du FC Metz, Ludovic Obraniak.
Donc, légende, je sais pas, on m'avait pas foutu dans l'équipe type de.
T'as pas été dans l'équipe type,
c'est pas beau.
Tu remarqueras que t'as pas été dans l'équipe type non plus.
Vaut mieux passer.
Non, mais attends, il y avait du monde en même temps.
Ah ouais, mais bon.
T'es vexé?
Non, jamais.
Bon. Quelques matchs européens également ce soir. Il y a un choc entre Chelsea et Manchester United en Cup ce soir. United mène 2-0 à un quart d'heure de la fin. Donc Chelsea qui ne va pas mieux. United avec notamment un but de Paul Pogba qui mène 2-0. Oh, but pour Metz, Sébastien!
Oui, le but, l'ouverture du score pour le FC Metz, signé Ibrahim Agnan, le ballon dans la profondeur, et il vient ajuster, voilà, parfaitement entre les jambes du gardien biterrois. Et ben voilà, 10 contre 11, les joueurs de Metz ont su profiter un petit peu du public, là, qui les pousse un petit peu plus et qui s'énerve après l'arbitre. Ça leur a donné peut-être un petit regain de forme pour venir inscrire enfin ce but après pas mal de maladresse. 1-0 donc pour le FC Metz face à Béziers, pile à l'heure de jeu.
Très bien, tout à l'heure tu nous appelles dès qu'il se passe un truc. Je signale qu'en Italie, la Roma joue face à Bologne. Il y a 2-0 pour la Roma à 13 minutes de la fin. Et puis en Allemagne, on joue un peu de partout ce soir. Le Borussia Dortmund joue à Nuremberg 0-0 à un quart d'heure de la fin. Et Benfica joue également au Portugal 2-0 à la mi-temps sur le terrain d'Aves. Voilà. Edouard G nous rejoint, messieurs, en direct de Lyon, bien sûr. Salut Edouard.
Salut Gilbert.
Salut Edouard.
Salut Edouard. Salut Pierre.
Tout à l'heure, on va entendre Bruno Genesio qui parle du match évidemment, mais pas que. Qui parle aussi de son petit surnom puisqu'on lui a posé la question en conférence de presse. Mais ce qu'on veut savoir surtout, c'est la compo, Edouard, parce qu'on sait qu'il y a un absent de poids demain. Comment va jouer Lyon?
Alors, a priori, donc ça c'est sûr, donc Nabil Fekir qui est suspendu, ça on le sait depuis le dernier match de poule. Les deux incertitudes concernent Tanguy Ndombele et Jason Danayer. Tanguy Ndombele qui a reçu un coup qui a un petit peu sur le coup de pied au bas de la cheville, entre le bas de la cheville et le coup de pied, un petit souci, mais en serrant les dents demain, il devrait être titulaire, il va être titulaire. Et puis Jason Danayer qui a eu un petit étirement au niveau des adducteurs lors d'un face-à-face face à un joueur de Guingamp vendredi, donc ça a un petit peu tiré, donc il est sorti, c'était à l'heure de jeu, protocole de soins depuis, on a travaillé en solitaire on va dire, pour de son côté il a fait l'entraînement ce soir. Et mon petit doigt me dit qu'il est déjà dans le groupe, c'est une bonne nouvelle pour la défense lyonnaise, un groupe d'à 19, avec notamment Omar Solé, ça veut dire qu'il y a toujours une incertitude, mais a priori il devrait être titulaire, donc ça va nous donner une compo avec Anthony Lopez, donc Dubois, Marcelo, Denayer, à moins que Marsal au final le remplace, Mendy donc pour une défense. A priori, on va être une défense à 4. Awar Ndombele avec Memphis Depay en soutien de Dembélé. Et ensuite, les deux autres places offensives vont se disputer entre trois joueurs, on va dire, entre Terrier, Cornet et Bertrand Traoré. Donc trois joueurs pour deux places. Mais l'ossature va tourner autour de cette compo avec la très probable titularisation donc de Tanguy Ndombele et la fort probable, on va dire, pour Jason Denayer. C'est la tendance du soir. Après, il y a encore 24 heures avant demain. Donc il peut se passer beaucoup de choses, mais la tendance, elle est là.
Donc pour résumer, on a deux joueurs qui sont pas à 100%, Denayer et Ndombele quoi qu'il arrive. On n'a pas Fekir. Bon, avant de passer à l'avis de Ludo, il y a Messi en face quand même. Marcelo Denayer.
Il n'est pas dans sa meilleure période, Messi non plus.
Certes. Enfin, Marcelo Denayer, ça vous inspire confiance?
Bah, écoute, sur un match, alors t'as raison, là, ils ne paraissent pas à 100%, mais sur un match qui te dit qu'ils vont pas réussir à élever leur niveau, à souffrir un petit peu, à serrer les dents et à faire le match qu'il faut. Non, ce qui est le plus embêtant finalement, c'est ce dont on est sûr, c'est l'absence de Fekir dans un match comme ça. On a vu l'importance qu'il a pu avoir contre le PSG et contre City surtout. C'est lui qui est souvent capable de te jouer le coup offensif qu'il faut à un moment donné, te la mettre au fond ou de faire la bonne passe. Contre City, il avait été énorme pour ça. Donc ça, c'est un peu embêtant pour l'OL.
Genesio a dit aujourd'hui, Ludo, le marquage individuel sur Messi, ça fonctionne pas.
Bah, tout plie, oui, clairement, il a bien raison. Aujourd'hui, Messi est pour moi inarrêtable. Le meilleur moyen de contrer Messi, c'est d'essayer de bloquer les personnes qui lui amènent le ballon. Donc, c'est en essayant d'aller chercher plus haut, d'aller couper à la source cette relation. Si c'est pas Rakitic, ça peut être des fois Piqué qui monte avec le ballon.
Piste que donne Genesio, c'est il faut avoir de la densité autour de lui.
Ouais, parce qu'il faut que tu joues aussi les coups, faut que tu les défendes à deux ou trois, quoi. Très très souvent quand il élimine, si t'es à la sortie du dribble, t'as peut-être une chance de effectivement
faire des couvertures, mais souvent même dans les petits espaces, tu peux deux ou trois, il arrive à t'éliminer. Ouais. Donc le but pour moi des Lyonnais, ça sera d'aller chercher beaucoup plus haut pour essayer d'aller couper les relations de passe que peut avoir Busquets avec Messi ou Rakitic avec Messi, et d'essayer de l'empêcher de se retourner rapidement et de prendre de la vitesse. Il vient souvent quand il a du mal décrocher dans les pieds des 6 ou des 8. Il faudra peut-être quelqu'un dans cette zone-là pour tout de suite venir au contact. Je sais plus qui l'avait très bien fait. Je crois que c'était N'Golo Kanté quand ils avaient joué contre l'Argentine. Ouais. Où dès qu'il venait toucher le ballon, il y avait quelqu'un dans sa zone pour un peu l'embêter. Peut-être pas lui prendre le ballon, mais du moins au moins de créer une incertitude.
Edouard, merci beaucoup.
Eh ben de rien.
Et puis tu seras là demain soir, hein. Évidemment demain soir d'ailleurs after exceptionnel jusqu'à 1h du matin comme la semaine dernière pour le PSG, donc ça avait marché, on souhaite que ça remarche demain évidemment. Pour l'OL, tout ça nous amène à l'avis du soir de Ludo. Jingle Aubraniac tout de suite dans l'after.
Nous dans ce championnat, on sait qu'on est on se situe quelque part dans là où on est actuellement.
Moi j'ai dit ça, moi.
Attends, mais des fois t'as les analyses de haut niveau.
Ça doit être au début. Ça.
Alors, comme ton avis concerne le match de demain, il faut qu'en préambule, avant ton avis, tu écoutes Bruno Genesio, sa vision à lui du match aller face au Barça.
J'ai l'impression que ça va me servir, non?
Oui, ça va te servir.
Ce métier, je le dis souvent, pour vivre ces moments-là. ce stade, le Groupama Stadium, a été construit pour accueillir ce genre d'équipe et d'événements. Donc il faut profiter de ces moments, il faut bien se préparer, bien se concentrer pour jouer notre chance à fond, y croire. Et puis on fera les comptes après les deux matchs, parce que il faut aussi avoir conscience que la qualif se jouera sur deux matchs. Et demain, il faut rester à la fin de ce match et à la mi-temps, il faut rester en vie.
Pour rester en vie, dit j'ai les yeux demain soir. Ludo, quel est ton avis sur ce match de demain? Comment l'aborder?
Moi, je le vois d'une manière différente. Pour moi, si t'essayes de rester en vie demain, t'es déjà mort. Parce que si tu prends la chronologie des matchs du Barça, que ça soit en Ligue des Champions ou en championnat à domicile, tu sais que c'est toujours très dur d'aller dans un contexte là-bas, surtout sur un match retour. Donc, pour moi, l'OL doit jouer son va-tout sur ce match-là. Essayer d'embarquer le public avec eux en mettant une intensité qu'ils ont su mettre, que ce soit contre City ou contre Paris. Moi, je pense que l'exemple le plus récent est l'intensité qu'ils ont mis contre Paris, où justement, quand tu vas chercher plus haut ces joueurs, eh bien, ils ont beaucoup plus de mal à relancer. Parce que quand Busquets, quand Piqué, quand ça sera peut-être Langlais ou Vermeulen, sont dans un confort où ils ont le jeu face à eux, et ils peuvent avancer, faire les 5 mètres, ils peuvent venir créer le surnombre et à partir de là déstabiliser ta défense. Moi, je pense qu'il faut appuyer là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est la défense du Barça. Il faut aller les chercher, il faut les empêcher.
Veux dire que le vieux Gérard là, il est cramoise.
Je dis pas qu'il est cramoise, mais je pense que s'il y a un point faible, c'est là que ça se
situe. Piqué.
Et puis il faut emballer le match. Pour moi, demain, la meilleure tactique, alors ça fait un peu démago, mais je veux dire, la meilleure défense, c'est l'attaque pour moi demain du côté de l'OL. Il faut jouer son va-tout. Il faut essayer d'aller les chercher haut, de mettre de l'intensité, du rythme et d'essayer de rester dans leur camp au maximum.
Pierre, t'es d'accord?
Oui, sauf que ça va être super dur.
Ouais, en fait, tu pourras pas faire ça tout le match. Hein,
voilà, quoi qu'il arrive. À mon avis, la clé du match, ça va être effectivement d'avoir ce bloc, peut-être pas haut, mais médian pour moi, mais très compact. Il va falloir rester comme ça tout le match pour l'OL, parce que dès que tu vas laisser ce genre d'espace,
oui, l'organisation tactique sera ultra importante.
Ah ouais, et puis l'organisation tactique, ça va pas être uniquement dans la tête, ça va être répéter des efforts, des courses tout le match pour pas laisser un seul espace, parce que si tu laisses des espaces, effectivement, t'as déjà derrière des joueurs de ballon qui vont pouvoir s'engouffrer et faire la différence numériquement après au milieu, et puis toucher peut-être un Messi, comme tu le disais avant, où t'auras pas coupé ces trajectoires de passe pour Messi et où tu pourras plus le faire en tout cas, et où là après ça va être problématique. Donc il va falloir finalement on découvre rien de toute manière, il va falloir faire le match parfait défensivement, tactiquement, avec un bloc très compact. Alors peu importe, il y a des moments où tu vas subir, c'est sûr.
C'est-à-dire que j'ai bien conscience que tu pourras pas faire ça tout le match, mais en tout cas, il faut emballer le match, il faut mettre le public avec toi, il faut essayer de mettre dans le doute cette équipe-là. Peut-être sur un quart d'heure, peut-être sur 20 minutes, et après revenir peut-être à des choses un peu plus cohérentes.
Sur des temps forts.
Sur des temps forts. Et après revenir comme ils l'ont fait contre City, ou justement avoir un bon bloc. Tu mets les deux flèches sur les côtés, Cornet, qui a d'ailleurs été, à chaque fois qu'il a joué des gros matchs, très bon, qui t'amène justement cette profondeur et ce volume de jeu. Mais il va pas falloir que l'OL subisse tout le match, parce qu'à force de faire des courses.
Terrier, qui a annoncé titulaire, il a jamais vécu un match comme ça de sa vie. Hein.
Non, c'est clair. Mais c'est pour ça que l'absence de Fekir aussi.
Je pense que Martin, il faut le sortir du Terrier un peu plus tard. Les 20 dernières minutes.
Et tu mets Traoré.
Je commence avec Traoré. Alors certes, c'est l'intermittent du spectacle, Bertrand Traoré, mais il est aussi capable sublimer et de créer du doute dans le.
Là-dedans, on revient à ce qui pour moi. Peut-être le handicap le plus certain, c'est l'absence de Fekir, parce que dans ce bloc compact qui va pouvoir aller harceler, etc., à la récupération du ballon, c'est souvent lui que tu trouves en premier et qui fait la différence très souvent par la passe ou le dribble, la passe. Il va falloir que quelqu'un fasse ses beaux gestes.
C'est là où Ndombele et Aouar vont avoir un rôle vraiment primordial.
J'espère qu'ils vont mettre le feu, comme tu dis, mais enfin le problème, c'est que même si tu gagnes même si tu gagnes 3-0 demain soir, t'es sûr de rien.
Bah oui, mais il vaut mieux gagner 3-0 que de faire
nul. Ce serait pas mal quand même.
Ce serait même inespéré. Non,
mais tu pourras pas tuer.
Nous, il y a la jurisprudence.
Ah nous, il y a une jurisprudence effectivement un peu traumatisante pour les clubs français.
Ouais. Non, c'est quoi qu'il arrive, le Barça ne sera pas mort après le match aller. Il y a même des chances qu'il soit bien vivant.
On va pas se mentir. Le match, il est pas 50-50. Les chances, elles penchent plus en faveur du Barça.
À quelle hauteur tu dis quoi? 80-20? 90-10?
70-30. Honnêtement, mais
Moi, je suis optimiste, hein. Moi, je dirais 80.
Ouais, mais même si c'est, tu sais quoi, c'est
même pas, 85,
c'est pas très
15.
Grave, c'est pas très grave, les probas. À la limite, si même t'as que 10 ou 15% de chance de passer, c'est justement ces 15-là qu'il faut jouer à fond et qu'il faut jouer très intelligemment. Alors, moi, je suis d'accord sur les temps forts, mais t'auras forcément aussi des temps faibles à un moment donné où tu vas pas avoir le ballon, où ils savent trop bien le faire pour ne pas le faire au moins certaines périodes. Et là, il va falloir aussi que Lyon soit costaud. Dans quelque chose de plus tactique, de plus réfléchi, avec beaucoup d'efforts, etc. Il va falloir faire le match parfait pour pouvoir inquiéter Barcelone.
Où la charnière centrale a aussi un rôle primordial, ouais. C'est-à-dire sur la hauteur du bloc. Va pas falloir que tu te mettes sur ta ligne 18 pendant une heure et demie. Va falloir faire monter le bloc
un moment serrées,
et prendre le risque de laisser peut-être 40 mètres dans ton dos, quitte à te faire prendre sur une ou deux situations. Mais si tu restes collé à ta ligne et que tu subis la qualité technique du Barça, qui va pendant une heure et demie t'user, te balader de droite à gauche, ils vont user les ailiers qui vont faire des courses de 70 mètres à chaque fois que tu récupères le ballon pour essayer de contre-attaquer, tu vas le reperdre aussitôt. Et puis tu vas mourir à petit feu. Donc moi je pense qu'il faut tenter quelque chose, en tout cas dans les premières minutes déjà, aller créer de l'incertitude. Le Barça en plus, s'il y a bien un moment peut-être pour le prendre, c'est peut-être là en ce moment. Sur les derniers matchs, ça a été un peu moins bien que ce qu'on a vu avant les fêtes de Noël.
Même si ça reste, voilà.
Allez-y les gars.
Tiens, on va prendre l'avis de Riyad.
Il faudra aussi être terriblement efficace et réaliste devant le but, parce que t'auras pas beaucoup d'occasions, je pense.
Riyad au 32-16, salut Riyad.
Bonsoir à tous.
Salut Riyad.
Supporter de Lyon, Riyad. Est-ce que t'es d'accord avec Ludo? Il faut mettre le feu à fond demain soir.
Ben en fait, vous connaissez bien votre métier. Je crois que j'ai plus rien à dire. Hein. Vous avez tout résumé. Hein. Je pense que quand il y a une équipe qui faut être réaliste, qui a des qualités plus hautes que les vôtres, la seule façon de gagner le match, c'est sur l'engagement et l'intensité. Si on arrive à faire ça correctement, et il y a surtout un joueur. Moi, je suis aussi fan du Barça en parallèle. Comme je dis souvent, je suis un Barça lyonnais. Donc c'est deux équipes que je suis et que je connais. S'il y a un joueur qu'il faut vraiment demain serrer, tout le monde pense à Messi, ça ne s'intéresse, tu pourras jamais tenir. C'est Busquets. Si demain tu arrives à harceler Busquets, le bloquer, l'énerver, faire en sorte que cette plateforme ne tourne pas, eh ben t'as des chances de pouvoir bien attaquer et construire ton jeu. C'est lui demain qu'il va falloir harceler. Mais oui, voilà, on est à 70-30. Moi, comme j'ai dit depuis le tirage, c'était le tirage que je voulais, je suis content parce que voilà, c'est les deux équipes que je supporte. Mais bon, demain ça va être le cœur et donc ça va être l'Olympique Lyonnais. C'est un match de gala. Quoi qu'il arrive, c'est que du bonheur. Si demain on arrive à faire un bon match, et pour moi un bon match, c'est pas forcément une victoire, parce que on connaît tous la jurisprudence Paris Saint-Germain. Si demain on gagne, il n'y a rien à faire. On va prendre une rouste quand même au retour. Pour moi, il faut qu'on fasse un bon nul. Comme ça, on aura envie de marquer au match retour et on fera un match retour.
Ah ouais, toi tu préfères un nul à gagner?
Ouais, je préfère un 1-1 ou
un 2-2. Étrange ça quand même, non, Riyad?
Un 1-1 ou un 2-2, ça me va. Parce que je me dis, au moins, on n'ira pas là-bas les mains dans les poches comme Paris a fait et les regarder jouer. On ira là-bas, comme a dit Ben Arfa dans la semaine, on ira là-bas pour, on sera obligé d'aller marquer et donc au moins on jouera au ballon.
Ouais, tu veux dire t'as une autre approche psychologique du match retour.
Moi personnellement, je préfère 2-0 hein, partout, mais écoute, on verra.
Ce le tout, sinon Riyad, c'est si jamais ça se passe bien pour l'OL et que tu gagnes 2-0, on croise les doigts, on l'espère.
Mais gagner 2-0 contre le Barça, ça veut rien dire.
En fait, il suffira d'adopter ta psychologie après au retour et de se dire qu'on a fait 0-0, mais
on a déjà vu dans le passé gagner 4-0, ça veut rien dire. Donc
ouais, non mais c'est non mais là on aborde l'aspect psychologique d'avant match.
Ça c'est le FCMS, messieurs.
Ouais, ce n'est juste pas à vous rappeler. Ouais, c'est pas. Il y avait Tony Curbo, c'est Luxonor, mais c'était pas là, toi.
C'est pas le Racing Club de Strasbourg, hein, comme.
Non, Strasbourg a éliminé le Barça dans les années 50 à la pièce. Donc c'est une histoire extraordinaire. À l'époque, beau, quand il n'y avait pas de tir au but. Ouais. Match aller, match retour, prolongation, égalité, à la pièce, pam, pile ou face. Et hop.
Ça
m'étonne. On s'est qualifié. On est là, attends, dans les grands matchs. On est là dans les grands matchs.
La réussite du grand.
Bon alors, tiens, Riyad, reste avec nous parce que je voulais également qu'on réagisse au propos du jour de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui donne une interview au Figaro et qui dit « Je ne quitterai pas l'OL avant de gagner la Ligue des Champions ». Alors est-ce qu'il s'enflamme?
C'est une déclaration d'amour. Ça veut dire qu'il est à l'OL jusqu'à sa mort.
Alors attends, non, justement, parce qu'il dit « Bon, concernant mon départ, je préfère qu'on parle de 5 ans plutôt que 10 ans ». Voilà, il dit « Dans 5 ans, j'espère qu'on aura gagné une Coupe d'Europe. Je ne veux pas lâcher avant d'avoir remporté la Ligue des Champions ».
Il dit une Coupe d'Europe, il dit pas
la Ligue. Après, il parle de Ligue des Champions. Il dit « Je ne veux pas lâcher avant d'avoir remporté la Ligue des Champions ».
D'accord, okay.
Voilà. Alors, il aura 70 ans fin mars, Jean-Michel Aulas. Bon, il a raison de faire ce genre de déclaration, Riyad, ou alors il s'enflamme un petit peu là. Parce que gagner la Ligue des Champions aujourd'hui, ça semble quand même assez compliqué pour l'OL, non ?
Ouais, c'est compliqué, mais bon, il vaut mieux qu'il dise ça qu'il dise le contraire, quand même. S'il nous dit qu'on gagnera jamais la Ligue des Champions, enfin, qui est...
On va le targuer de ne pas avoir d'ambition.
Mais après dire les choses et nous convaincre, il y a un monde entre les deux. On sait très bien que ce serait très compliqué. Mais dans le foot, ça s'est vu. Quand Porto l'a gagné en 2004 ou 2005, personne s'attendait à ce que Porto soulève la Ligue des Champions. Pourtant, on avait une finale Porto-Monaco. Il y a personne qui aurait misé sur ça. Le foot est fait d'incertitudes. Quand on voit la Coupe du Monde, ok, la France avait un bel effectif, mais sur le terrain, la France n'a pas été celle qui a développé le plus beau jeu. Pourtant, ils l'ont soulevé. Voilà, dans le ballon, dans le foot, on sait jamais ce qui peut arriver. Maintenant, bien sûr que la logique de l'Olympique Lyonnais ne dit pas qu'on va gagner la Ligue des Champions. Après, il dit une Coupe d'Europe. Une Europa League est plus probable qu'une Ligue des Champions.
Pour alors, moi, ça sous-entend que pour Jean-Michel Aulas, c'est plus facile de gagner une Coupe d'Europe que de gagner en Ligue 1, alors. Ce qui n'arrête pas de dire qu'en Ligue 1, il ne peut pas rivaliser avec le PSG.
Ah oui, mais il a dit dans les 5 ans, hein. Peut-être qu'il pense que dans 2 ans, il pourra rivaliser avec le PSG à ce moment-là, je sais pas. Ça va avec, hein, normalement, effectivement. Hein, si tu peux pas être souverain chez toi, dans ton pays, ça paraît compliqué d'aller chercher le trophée européen.
Ces dernières années, au-delà déjà d'aller chercher le titre de champion de France, va déjà au moins chercher une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, déjà.
Ben ouais.
T'as eu l'opportunité d'aller aussi, à l'Europa League. Et tu t'es fait sortir par Moscou, tu t'es fait sortir par l'Ajax. Donc déjà, essaye de passer déjà une étape. Essaye de gagner, remporte des trophées déjà. Et puis après, on verra pour remporter la Ligue des Champions. Parce que là, tu rentres dans le clan des sénateurs. Là, tu t'assois à une table, attention.
Ouais.
T'as intérêt à être costaud. Mais vu le modèle économique de Lyon, ils vont rentrer de l'argent ces prochaines années. Là, quand tu vois sur cette opération-là, la machine est de nouveau en marche économiquement
du côté
de Lyon.
D'argent, hein, pour
et encore, même si l'argent est là, Dieu sait que c'est encore difficile de pouvoir s'asseoir à la table des quatre déjà. Mais pourquoi pas, hein.
Moi, j'aime bien le discours ambitieux.
Je vois pas l'intérêt de cette déclaration à ce moment-là.
On n'arrête pas de répéter que voilà, que le foot français n'est pas ambitieux, etc. Donc quand on a un président qui mène un club comme ça depuis de nombreuses années très très bien, parce qu'il le fait très très bien quand même, Lyon a grandi avec lui, c'est bien d'avoir un discours ambitieux. Après, je pense qu'il y a un décalage entre la réalité et ses ambitions.
Il y a une autre partie de la déclaration quand même, ça veut dire qu'il commence à envisager de partir, ce qui va quand même être une révolution à Lyon.
De toute manière, à un moment donné, oui, effectivement.
Mais en même temps, on lui demande pas forcément à l'heure actuelle d'être au niveau du Paris Saint-Germain, mais il y a une différence entre pas être au niveau du Paris Saint-Germain et puis être à presque 20 points du Paris Saint-Germain.
Ce qui est gênant, Ludo, franchement, c'est que d'un côté, il va te dire, on est un petit club de province par rapport au PSG, on est des petits artisans,
on peut pas
rivaliser, puis à côté, il te dit, de toute façon, on va gagner la Ligue des Champions dans 5 ans,
gagner. Est-ce qu'on est surpris?
Bon.
Non. C'est ce qu'il aime faire.
Tiens, pour conclure, Riyad, écoute bien Bruno Genesio. Tu sais qu'il a été baptisé Pep dans l'after il y a quelques mois maintenant. Et ça n'a pas échappé aux journalistes espagnols qui lui ont posé la question aujourd'hui en conférence de presse. On écoute.
Ce sera un peu prétentieux de dire que ma manière d'entraîner ressemble à celle de Pep Guardiola, que je considère comme un des trois meilleurs entraîneurs au monde. J'adore ce qu'il fait parce que j'adore sa philosophie de jeu, j'adore ce qu'il apporte aux joueurs et aux équipes qu'il entraîne. Concernant le surnom, ça a été au départ plutôt humoristique de la part d'un des journalistes d'une radio connue. En tous les cas, j'ai adoré la double confrontation qu'on a eue et l'échange rapide qu'on a pu avoir lors de ces deux matchs, et il a confirmé tout ce que je pense de lui.
Voilà. Petit hommage à Daniel Riolo qui sera de retour demain.
C'est lui
qui est à l'origine de tout ça.
Est-ce qu'il va coacher Lyon, Daniel?
Ah bah bientôt, là, on attend que Lyon se qualifie contre le Barça et on va organiser ça après.
Ouais, s'ils se qualifient contre le Barça.
Je rappelle que Bruno Genesio avait invité Daniel à venir mettre le survêt pour voir ce que c'est qu'entraîner.
Si Lyon se qualifie contre le Barça, faut peut-être mieux attendre avant de prendre Daniel quand même.
Juste pour voir Daniel en survêt, déjà, ça vaut le coup, je pense.
Ben j'espère qu'ils lui en filent, ils vont lui enfiler un
survêt. Le survêt avec les copains mondiales, tu sais, avec les lacets attachés au survêt.
Ah oui, pas mal. C'est vrai que c'est. J'avais pas envisagé ça sous cet angle, mais ça peut être drôle. T'as raison. Riyad, un truc à rajouter? Ou t'as tout dit?
Non, bon match. Et puis on se rappelle demain après le match. On verra tout ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que du bonheur. Ça va être un match de gala, du spectacle.
Ah bon, on va se régaler.
Et qu'importe du moment qu'ils donnent à fond, on sera content de notre équipe.
Voilà, le stade va être magnifique. Bah,
puis vous allez avoir un rôle important aussi à jouer, hein, parce que si le parcours est en feu, ça va forcément ça les pousser.
Il le sera, vous inquiétez pas.
Ouais, j'en doute pas.
Ouais, grosse ambiance. Quand il y a des gros matchs, il y a une grosse ambiance au parcours.
Ouais, bah, très bien. Ouais, bien sûr.
Ça fait beaucoup de bruit. Merci Riyad. Dans quelques instants, on change de sujet. On va parler de l'OM puisque Pierre veut parler de Balotelli. Eh oui, que faut-il faire avec Balotelli? Déjà le prolonger, attendre la fin de la saison, ne jamais attendre et d'ores et déjà envisager de s'en séparer à la fin de l'année. L'avis de Pierre dans quelques instants. La Ligue 2, un point sur Metz-Béziers. Tout de suite, Sébastien Ruffet.
La 80e minute de jeu, toujours 1-0 pour les Messins qui ont vraiment été finalement réveillés par l'expulsion tout à l'heure d'Opa Nguet. Ça leur a fait du bien, ils ont retrouvé leur jeu. Et là, on est très inquiet pour deux joueurs, pour Savan côté Béziers et pour Bayou côté Metz. Il y a eu un tampon énorme entre les deux joueurs. Beaucoup d'inquiétudes. Les soigneurs sont là et les coéquipiers également sont autour. On va essayer d'en savoir un petit peu plus dans les deux prochaines minutes, mais c'est très inquiétant ce tampon énorme. 1-0 pour Metz contre Béziers à 10 minutes de la fin.
Allez, dans quelques instants, l'OM est au programme de l'After. On se retrouve dans quelques secondes sur RMC.
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Ludovico Bragnac et Pierre Ducrot ce soir. L'OM au programme dans quelques instants. Mais d'abord, je vous livre quelques réactions à notre débat lyonnais là sur le hashtag RMC Live sur Direct Studio. Qu'est-ce que j'ai par exemple on me dit attention, Busquets. Tout le monde parle de Messi, me dit Arnaud. Mais n'oubliez pas Busquets qui est indispensable et qui est la rampe de lancement absolue du Barça. J'ai Diego qui dit moi j'offre un voyage pour deux personnes tout compris à destination de votre choix à n'importe que l'auditeur si Lyon gagne demain. Donc voilà un mec sûr de lui, Diego, peut-être pas trop.
Ça se relève ça comme tu ne sais jamais, ça coûte rien.
Peut-être pas trop t'enflammer quand même. Voilà. Et puis sur les déclats de Jean-Michel Aulas, Chonze qui nous dit Aulas est souvent gonflant avec ses propos. Il dit tout et son contraire. Voilà. Bon, après chacun son
avis. Ouais, il faut le prendre comme ça, on le connaît.
T'es prêt?
Oh oui, toujours.
Jingle du croc.
Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça.
Ouais, mais enfin moi, j'ai pas connu les banquettes arrière avec Scorpion, quoi. Ah, c'est vieux, ça.
Avec Scorpion.
Ouais, le...
Still Loving You.
Exactement.
Tu voulais parler de Balotelli?
Oui, pour réagir un petit peu aux rumeurs ou aux bruits qu'on entend plus ou moins avec insistance là depuis quelques jours. Est-ce qu'il faut pas tout de suite pour l'OM prolonger Balotelli
jusqu'à la fin de la saison, je le rappelle. Hein.
Voilà, qui a un contrat jusqu'au 30 juin. Ouais, enfin la saison se finit au mois de juin pour les contrats, mais lui il sera
pas
un peu avant.
Non, mais c'est mai. Hein.
Ah, c'est mai, il a pas le mois de juin, Balotelli. Ouais. T'es sûr, ça
va jusqu'à... Écoute, les infos qu'on avait. Ouais.
Ah, moi, je pense que c'est un contrat qui vaut jusqu'à fin juin.
C'est toi le prendre des contrats. Tous les contrats, c'est pas moi.
Jusqu'au 31 juin, non?
Ouais, 31 juin.
Il n'y a pas les 31 juin. On peut toujours essayer.
Oui, 30 juin. Il faut faire avec.
C'est là où tu étais fort. Toi, tu faisais les contrats jusqu'au 31 juin. Ils finissaient jamais
les contrats jusqu'au 34 juin pour.
Tu fais les
phalanges.
Exactement. Donc, voilà. Parce que Mario Balotelli, fonctionne bien à l'OM, là, sur ses débuts. Parce qu'il marque, il a marqué. Tout va bien. D'un seul coup, faudrait que l'OM se précipite et signe Balotelli. On va juste rappeler déjà que Balotelli a été mis dans de bonnes dispositions, tant mieux. C'est le premier attaquant depuis très longtemps à l'OM qui a la chance de jouer dès le départ à deux devant. On l'oublie, mais à un moment donné, même si peut-être que Mitroglou et Germain n'ont pas les qualités de Balotelli, ils n'ont jamais eu la chance eux de jouer dès le départ alignés à deux avec quelqu'un devant. Ça a été très très dur pour eux. Je crois qu'ils ont joué deux ou trois fois à deux en deux ans. Donc ça déjà tant mieux parce que Rudy Garcia a réagi et que ça permet à Balotelli de briller. Mais c'est déjà un premier fait. Ça a l'air d'être un garçon très attachant. Je connais pas, mais comme ça, il a l'air de s'être très vite adapté au vestiaire marseillais et tout le monde a l'air de l'avoir adopté. Sauf que c'est pas un jugement, mais c'est un état de fait. Toute sa carrière, ça s'est toujours quasiment très bien passé dès le départ là où il est passé. C'est juste que ça s'est souvent aussi très très vite mal passé derrière. Alors à Nice, il a fait deux saisons, c'est bien. C'est presque.
Ça a pas toujours été un long fleuve tranquille. Hein.
Ah non, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Partout de tous les clubs où il a fait, partout où il est parti, ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé à Nice, à Liverpool, à Milan, enfin partout, à City aussi. On s'en rappelle. Et moi, je me dis, enfin, si je suis l'OM aujourd'hui, honnêtement, je profite de l'instant présent. Je profite de Mario Balotelli jusqu'à la fin de saison. S'il marque 10 buts, eh ben super. Alors vous allez me dire, eh ben ouais, mais il va être offert aussi. On va être en concurrence d'un seul coup avec d'autres clubs. Eh ben très bien. Déjà, je suis pas sûr que ça intéresse tant de gros clubs que ça. Même si Mario Balotelli marque 8 ou 10 buts avec l'OM, je suis pas persuadé qu'il y ait tant de monde que ça au balcon. Il y en aura,
mais s'il retrouve le statut international. Ça peut aussi.
Je pense que contrairement à son début de carrière ou même à son milieu de carrière, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement pour lui, parce que ça reste un excellent joueur, je pense qu'il souffre aussi un peu de son image et que il y a les très grands clubs en tout cas n'iront plus sur lui. Et moi, si je suis l'OM aujourd'hui, je me dis les fiançailles se passent très bien. Je ne gâche pas tout en me mariant trop vite avec lui. Je prends le risque qu'il parte avec une autre. C'est pas grave.
Mais je vois si cet été, après un bon début de saison, après des belles fiançailles, si lui a vraiment envie de m'épouser. Voilà, en gros, c'est un peu ça l'image. C'est pas moi qui dois lui proposer, c'est lui qui doit avoir envie de rester.
Une belle image.
Mais je pense qu'avec un joueur comme Mauro Balotelli, c'est essentiel. C'est lui qui décide tout le temps dans sa carrière s'il a envie ou pas envie. Bah, là, quand il a plus envie, t'as vu ce que ça fait à Nice.
T'as conscience que tout Marseille attend de tomber amoureux de ce mec.
C'est pour ça que ça peut marcher.
Il commence à y avoir des ballons dans les tribunes.
Ah, non, mais c'est très bien d'ailleurs.
Les joueurs marseillais qu'on a, ils adorent Balotelli. Ils disent, attends. Mais oui, parce que. Qu'on avait avant. Là, le mec, comment il arrive, il marche.
Bien sûr. Et c'est tant mieux parce que c'est pile poil le genre de profil qui peut correspondre justement à l'OM.
Il colle totalement à l'OM.
Sauf que si Mario Balotelli, je pense que si tu arrives à le convaincre, parce que déjà, il faudrait le convaincre. Je suis pas sûr que lui-même ait envie de signer tout de suite à l'OM. Je pense que lui, il a très envie de surfaire la cerise à l'OM et de voir ce qui va se passer cet été. Moi, je suis intimement convaincu en tout cas, qu'un mariage trop rapide, ce serait une erreur. Et qu'il faut mieux que ça vienne de lui. Il l'a fait partout où il est passé. Quand il a eu envie de rester et de jouer et de marquer quelques buts, il y arrive. Il a toutes les qualités pour ça. Quand il a plus envie, il te fout c'est fini, tu le rattrapes plus. Donc il faut que ça vienne de lui.
Alors, Dugas était encore plus catégorique que toi tout à l'heure dans Team Dugas. Christophe disait, je pense qu'il faut même pas y penser à la fin de l'année.
Non, parce que c'est autre chose. Comme tu le dis, si marque des buts, que ça se passe bien avec le public, que l'OM retrouve aussi un petit peu d'allant, etc. Ça peut être quelque chose qui fonctionne parce que les deux profils club joueur fonctionnent bien ensemble avec les supporters. Après, il y a aussi des manières de préparer ça. La cellule recrutement de l'OM doit être active en se disant que effectivement il y a de fortes chances que Mario Balotelli soit plus là. Et tu travailles sur d'autres profils. Ça coûte cher Mario Balotelli en termes de salaire. Tu peux avoir autre chose hein, aussi.
500 000 par mois.
Donc tu peux trouver d'autres profils qui auront au moins autant de garanties que Mario Balotelli.
Ludo, est-ce que tu es d'accord avec Pierre ?
Pas tout à fait, mais oui, en grande partie. Mais il y a toujours le spectre qui plane autour du poste de numéro 9 à l'Olympique de Marseille, où t'as raté le cas Bafé Gomis, qui aurait pu être ton numéro 9.
L'erreur originelle,
t'as
ça.
T'as fait la connerie. Pourtant, lui
voulait rester.
Ouais, au final, il aurait gagné quasi autant que Mitroglou avec le transfert. Lui, il y avait juste à le reprolonger. Ça t'aurait coûté moins cher. Donc, il y a toujours cette histoire d'incertitude par rapport à ce poste-là. Là, t'en tiens pour une fois qui tient la route, mais en même temps, ça dépend aussi de l'équipe que tu vas construire l'année prochaine, parce que quand je vois le rapport qu'il a avec Thauvin,
c'est le meilleur du monde,
ils s'entendent bien les deux. Ouais. Si Thauvin, il se fait la malle l'année prochaine, le loustic, c'est pas sûr qu'il ait aussi envie de. C'est ça aussi. Tu sens que Balotelli, il a besoin d'avoir de sentir.
Ouais, bien.
Il a besoin d'avoir des affinités avec les joueurs avec lesquels il joue, des joueurs qui peuvent à un moment donné lui dire des choses parce qu'ils ont des stats, parce qu'ils ont aussi du caractère. À Nice, quand il parlait, tout le monde baissait la tête et puis regardait ses pompes.
Regarde, à Nice, ça a bien fonctionné. Quand il a décidé que ça ne fonctionnerait plus parce qu'il voulait pas rester. Il a décidé, il a arrêté. Pourtant, il était dans un groupe où tout se passait bien avant, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait peur avec lui, en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression que si ça vient pas de lui, alors faut avoir envie de supporter ça, hein, quand t'es le club, c'est spécial.
Je me dis, toi, tu le sais mieux que moi. Il est en position de force, pour l'instant, puisqu'il vient de marquer quand même, trois buts, là.
Trois buts. Mais alors bon, certains disent ouais, mais c'est contre Dijon et Amiens, tu vois.
C'est ça. Mais après là, il y a un tournant là hein, pour l'OM là. Il y a des matchs importants. Ils jouent Rennes, Saint-Étienne, Paris. Je sais pas, laissons encore quelques. Parce qu'après, plus le temps passe, et s'il continue sur ce rythme-là, comme tu dis, après à un moment donné, ça va te coûter cher. Et puis il est plus tout jeune non plus. Donc lui, il va jouer là-dessus. Donc peut-être qu'en essayant dans les semaines qui viennent de peut-être trouver un accord, c'est là où t'arriveras à trouver un accord qui est c'est cher. Hein, mais peut-être que ça pourra être plus cher en fin de saison.
Un bon compromis. Ouais. C'est possible.
Tu peux lui proposer un an. Prend un risque limité.
Alors après, il y a autre chose. J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est qu'on parle pas du fait que c'est peut-être Balotelli qui aura pas envie d'un an de contrat effectivement à 28 ou 29 ans. Et là maintenant, peut-être qu'il aura envie d'un projet sur 2-3 ans effectivement. Donc t'as peut-être pas le choix aussi quand t'es. Enfin, le joueur te laissera peut-être pas le choix de le signer juste un an.
Ça peut être le genre de club qui lui colle à la peau, quoi. Tu vois le lien avec les supporters. Tu sens que ça peut convenir.
En fait, le fond de mon avis tranché, c'est ça, c'est que je suis intimement convaincu qu'il faut que ça vienne de lui, qu'il ait envie de rester à l'OM. Et là, une fois que ce sera lui qui aura choisi.
Lui donner envie d'avoir envie.
Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu le défi de l'OM. C'est lui donner envie d'avoir envie de rester. Voilà, voilà. Et ça passe effectivement par les supporters parce que ça peut matcher effectivement parce qu'il a besoin de ça.
Il donne l'obscurité puis la lumière, quoi.
Ah, il est parti.
Bon, j'arrête. Quelques réactions sur Direct Studio. Beto qui lui dit, moi j'attends de voir Balotelli contre un club du top 5. Et n'oubliez pas qu'il peut déraper à tout moment. Et puis Koussi Koussa qui lui dit, il faut signer Balotelli, on retrouvera pas un attaquant de ce niveau, même si physiquement il est pas prêt. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même un truc, quand tu le vois marcher là, ouais. Alors que tout le monde court autour de lui, t'as lui dire, hey mec, secoue-toi, quoi. Ah,
il joue avec son
trottine
état physique
au moins,
actuel.
Tu vois.
Mais ça, je pense qu'il peut l'améliorer. Je pense qu'il travaille maintenant.
Sa présence physique sur les derniers matchs a quand même été incontestable. Il monopolise l'attention de la défense.
Même dès sa première rentrée, quand il a joué 20 minutes, exactement. Là, t'as senti la différence.
Tiens, je vais remercier le compte Twitter Vibron Foot, qui nous a rappelé en quelques tweets quelques-unes des frasques fantastiques de Mario Balotelli depuis le début de sa carrière. Moi, j'avais oublié la moitié, mais il y en a des magiques. Hein. Donc, Balotelli se fait arrêter en essayant de s'infiltrer dans la prison pour femmes de Brescia. Il explique à la police qu'il a fait ça par curiosité, il voulait juste jeter un coup d'œil. Balotelli a mis le feu à sa maison.
Je la connaissais pas, celle-là.
Balotelli a mis le feu à sa maison en tirant un feu d'artifice dans la salle de bain. Il est sorti en plein match en Ukraine, à City, prétextant une allergie à l'herbe. Qu'est-ce que j'ai encore? Il se fait arrêter par la police au volant de sa voiture. Il a 30 000 euros sur le siège passager. La police lui dit, mais pourquoi tout cet argent? Il dit, parce que je suis riche. Balotelli, il a rompu avec Melissa Costagnoli, sa compagne, par texto pendant qu'elle était en direct à la télé. La classe.
Il y a la scène du chasuble aussi, où il n'arrive pas à enfiler sa chasuble pendant 2 minutes. Là.
Une amende de 250 000 euros pour être impliqué dans une bataille de rouleaux à pâtisserie dans un restaurant indien avant un match. toutes les histoires de Balotelli, c'est quand même génial.
C'est marrant parce qu'il reste attachant quand même.
Et cette phrase, moi je ne célèbre pas mes buts parce que c'est mon boulot. Est-ce que t'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient livrer un colis?
Peut-être, je sais pas, quand tu fermes la porte, peut-être que le mec saute de joie derrière. Non, mais il a ce côté attachant quand même, c'est ça qui est fou.
Je pense
qu'il est attachant pour nous, je pense que pour les clubs, les mecs se posent quand même la question avant de le prendre.
Je peux dire qu'à Nice là.
Ouais, je pense qu'il le trouve un peu moins attachant.
Ça doit se taper la tête contre le mur.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Me comparer à Zlatan, mais c'est un compliment pour Zlatan, dit Balotelli. Abdo est avec nous, supporter de l'OM. Salut Abdo.
Salut Arthur.
Salut.
Abdo, ça va, la forme?
Bah nickel. Hein. On se prépare pour les bosser.
Abdo, alors sachez qu'Abdo est un fidèle de l'After, conducteur de bus, et tout son bus est obligé d'écouter l'After.
C'est bien. Ouais. Et voilà. tu vas conduire ton bus là maintenant à cette heure-là,
ouais? Ah c'est ça, 23h, de 23h à 6h.
D'accord.
Bus de nuit.
D'accord. Ah c'est ça les hommes. Hein.
Ah oui, t'as le moral. Oui, t'es à Paris, toi?
Ouais, je suis à Paris, ouais. Noctilien, le bus de nuit.
Très bien. Bon, si vous prenez le Noctilien cette nuit,
on passe bonjour d'ailleurs à tous ceux là qui transportent des gens de nuit et qui nous écoutent.
Oui, c'est vrai que ça fait du monde.
Il y en a beaucoup, hein.
Ouais.
Bon, Abdo, toi qui es supporter de l'OM, là, t'es d'accord avec Pierre sur Balotelli ou qu'est-ce que tu fais, toi? Tu gardes pas?
Moi, je garde pas parce qu'on a raté Balotelli il y a un an, pratiquement. Il y a un an, complètement. Et là, le prendre et le prolonger maintenant, c'est une erreur. C'est 28 ans, il les a bien, et je pense pas qu'on va faire l'avenir avec lui. Et je pense qu'il faut envisager un attaquant plus jeune et qui a faim, quoi, et qui a envie de se donner pour le club, quoi, et pas pour prévoir un autre contrat plus tard comme fait Balotelli, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'Abdoul a raison, c'est que on a oublié ça aussi un petit peu, c'est qu'à un moment donné il aurait pu rejoindre l'OM et qu'il en avait pas franchement envie et qu'il l'a fait presque
on a l'impression
qu'il l'a fait au moment où il était presque obligé
si
de le faire.
C'était l'OM ou rien.
Ouais, non mais c'est pour ça. Est-ce que ça revient un petit peu à ce que je disais.
Attends, Pierre, je te coupe parce que c'est terminé à Metz. Metz-Béziers, le mot de la fin, Sébastien.
Ouais, ça s'est terminé sur ce score de 1-0 pour le FC Metz, 1-0 pour Metz, 2 cartons rouges, un bandage, une dizaine de cartons, beaucoup de bleus et contusions dans ce match d'hommes. La morale de l'histoire, c'est que Metz s'impose et reste donc évidemment leader de cette Ligue 2 et pour Béziers, bien ça reste 18e.
Hey, Coco Corral, il fait des passes dés encore. Il est là. Hein.
Ah mais il est encore très très performant.
Ah oui, il est là. Coco.
Malgré son grand âge.
Est-ce que tu peux dire à Ludovico Bragnac que Saint-Symphorien, ça vaut pas le stade de la Méno?
Alors, si je dois éviter des problèmes, alors non, évidemment que ça ne vaut pas. Évidemment que ça ne vaut pas. Et d'ailleurs,
t'inquiète.
Non, mais d'ailleurs, je serai vendredi au stade de la Méno pour Racing Lille avec grand plaisir. Donc, dans une ambiance qui sera encore une fois. Est-ce qu'il y a encore des mots, Gilbert, pour décrire l'ambiance de la Méno?
Il
y en a plus, franchement.
Merci Sébastien. Bonne soirée.
Bonne soirée, messieurs.
Ciao Sébastien.
Sur Balotelli, t'as fait le tour?
Oui, je sais plus ce qu'on disait avant, mais
bon, bah,
oui.
Tomber, alors.
Non, il faudra prendre en compte aussi le résultat final de l'OM. Si tu fais l'Europe ou pas, ça va dépendre parce que
on est
la difficulté.
Aussi.
Toi qui connais bien le marché,
ouais, ça va dépendre.
Difficulté d'attirer un neuf de très haut niveau quand tu fais pas la Coupe d'Europe,
c'est compliqué.
Compliqué,
très compliqué.
Abdou,
oui.
Bon ben, bon boulot, hein.
Bon, ça marche. Merci de m'avoir donné.
Salut,
la parole,
sois prudent.
À très bientôt. Salut.
À plus tard.
Salut
Gilbert.
Salut Abdou. Match européen, c'est terminé à Chelsea, nouvelle défaite, on en reparlera avec Julien Laurence tout à l'heure. 2-0, victoire de Manchester ce soir dans ce match de Cup, donc ça, rien ne va plus pour Sarri, on en reparlera tout à l'heure. Pendant ce temps-là, la Roma a battu Bologne 2-1, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Le Borussia n'a pas gagné à Nuremberg 0-0, et puis Benfica se balade à Aves 3-0 à 20 minutes de la fin. Dans quelques instants, le reste de l'actu foot du jour, on va notamment parler de Mbappé, qui mine de rien a joué deux matchs en pointe,
ouais.
Et il a marqué à chaque fois. Est-ce que ça fait évoluer le débat sur son positionnement?
Après, il a marqué. Enfin, non, on va faire le débat.
Garde tes billes, on en reparle dans quelques instants.
RMC Football Show. Ouais, l'After Foot. Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, avec Ludovic Obraniak, bien sûr. Jusqu'à minuit. Tiens, on a préparé un petit cadeau pour Ludo. Un petit souvenir d'il y a quelques années. Ce sera dans quelques minutes, vous allez voir. Avant cela.
Qu'est-ce que vous m'avez fait encore?
Avant cela. Non, mais t'inquiète. Ça va te rappeler des bons souvenirs.
Tout à l'heure.
Des bons souvenirs lillois. T'inquiète pas. Oui, je voulais qu'on parle d'Mbappé quand même, parce que bon, hier soir, il y a eu un débat enflammé avec Daniel. On n'a pas eu le temps d'aborder toutes les, on va dire, tout ce qui est passé dans le
match. On n'a même pas eu le temps d'aborder le débat même.
Voilà, non, les autres débats. C'était un peu, comment dirais-je, à la one again.
Vivant.
Oui, un peu trop. Mbappé. Mbappé joue donc en pointe en Ligue des Champions, il marque. Mbappé joue en pointe hier soir, il marque. L'éternel débat sur est-il potentiellement un vrai neuf, ou bon, c'est un débat permanent. Est-ce que la réussite qu'il a eue sur les deux derniers matchs fait évoluer votre avis sur son positionnement, messieurs?
Moi, si je peux me permettre, il a marqué combien de buts en Ligue 1? 19 buts en 18 matchs, je crois, c'est ça?
Record pour un jeune de son âge.
Voilà, depuis 1900, je sais plus quoi.
Et sans être forcément numéro 9.
Et il a marqué plein de fois dans des matchs où il était pas numéro 9.
Depuis 45 ans, ça a pas été vu.
Voilà, depuis 45 ans. Et il a marqué, donc, 17 fois, non, même un peu plus, 18, donc, en étant pas numéro 9, en jouant dans une autre position. En tout cas, l'argument de dire il a marqué les deux fois où il a joué numéro 9, pour moi, il est pas recevable. Ce qu'il faudrait se dire, c'est, est-ce qu'il est aussi performant quand il joue à ce poste de numéro 9 que quand il joue sur un côté? Pour moi, pas encore. Il y finira, je pense. Enfin, il y arrivera. C'est même pas il y finira, parce qu'il va y arriver bien avant de finir. Mais sur le côté aujourd'hui, pour moi, il a plus de possibilités d'utiliser ses qualités de vitesse, ses qualités naturelles, et ce pourquoi il est inarrêtable en ce moment, c'est-à-dire bouffer des espaces sur les côtés, faire des appels du côté vers l'axe derrière une défense quand un Cavani par exemple décroche, et ça quand une fois qu'il part comme ça, tu fais comment pour l'arrêter? Là quand il est dans l'axe, on l'a vu tous les matchs où il a joué dans l'axe d'ailleurs. Il est dans un rôle un peu plus statique au départ, il décroche beaucoup pour jouer les ballons.
Bah d'ailleurs,
les appels qu'il
après
fait,
après le match de Ligue des Champions, quand on a analysé, on constatait qu'il avait même des soucis dans les appels. Parfois, il n'avait pas le bon réflexe.
C'est pas facile. Donc, il reste performant parce que c'est un joueur extraordinaire. Donc, tu pourrais le mettre en 6, qu'il arrivera à partir des fois. Et donc, j'exagère exprès, hein, ne m'envoyez pas de tweet. Je veux pas voir Mbappé en 6. Mais, pour moi, c'est un peu tôt encore. Pour moi, il peut apporter beaucoup plus sur le côté.
Il tac vachement bien, je trouve.
Qu'est-ce que t'en penses, Toledo?
Mbappé en 6.
Ce garçon, il sait tout faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même je vois la qualité de ses appels contre Manchester. Quand Di Maria lui met le ballon, alors le ballon, c'est une galette
Saint-Michel. Aussi, ouais.
Mais
une galette Saint-Michel.
Mais, l'appel où il arrive à sprinter et à se mettre juste entre les deux au bon endroit, parce que souvent l'attaquant, il est souvent derrière le défenseur. Là, il arrive à juste, il trouve toujours les bons intervalles, que ça soit au premier poteau. Il sait tout faire, ce garçon. Donc pour suppléer quand Cavani n'est pas là. Eh ben c'est une solution qui me paraît tout à fait envisageable, et même qui te donne une vraie plus-value au collectif du Paris Saint-Germain. Mais à partir du moment où Cavani est là,
la question se pose plus.
Je vois pas l'intérêt. Cavani remplit parfaitement ce rôle-là. Lui est très bon quand il est à l'aile. Donc il y a pas discussion là-dessus. Après, si demain, ça dépend comment on envisage l'avenir de Cavani. Si Cavani était amené à partir, pareil, à ce niveau-là, pour aller déloger un œuf d'une grosse armada européenne, c'est pas si simple. C'est donc peut-être qu'à ce moment-là, ça sera peut-être plus simple de trouver un ailier et de le décaler lui dans l'axe. Mais moi, j'espère qu'on gardera.
Alors là, ce sera par défaut. Alors ce que tu l'écris.
J'espère qu'on gardera ces trois-là. Moi, j'espère qu'on gardera Cavani. En plus,
Cavani,
j'ai l'impression que la mayonnaise commence à prendre là. Les trois, je vois des sourires, je vois des tapes. Ça y est, c'est la complicité.
Je pense qu'ils ont compris.
Ouais.
Voilà. Qui pouvaient être très complémentaires dans leurs registres différents.
Donc pour dépanner, oui, bien sûr, mais je pense pas que ça soit dans l'avenir immédiat.
C'est beau hein, quand même, on dépanne avec Mbappé, c'est magnifique hein, quand on est arrivé à ce genre de dépannage.
PSG, un autre truc qui nous a échappé hier, il n'y avait que 17 joueurs sur la feuille de match.
Ah oui, effectivement.
Ouais. C'est assez étrange.
Ouais.
Du coup, toutes les interprétations sont là. Est-ce un message de Tourelle ? Regardez, je peux même pas mettre 18 mecs sur la feuille de match parce que les blessés, les trucs. Et le PSG finit le match avec 8 joueurs défensifs. Ouais. Alors, est-ce que c'est les circonstances d'hier ? Parce que bon, blessé, match post-Coupe d'Europe.
17 joueurs,
est-ce que ça vous interpelle ou est-ce que ça veut rien dire en fait ?
C'est vrai que c'est suffisamment rare pour être relevé. Parce
qu'en général, le PSG, 500 millions d'euros de budget, t'es pas capable de mettre 18 mecs sur la feuille de match ?
Si, alors je pense qu'il peut le faire. Il pouvait prendre un jeune de plus, mais peut-être qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de jeune cette semaine-là qui méritait de venir en pro et avec les pros. Et j'imagine très bien Tourelle pouvoir avoir ce genre de raisonnement.
Pourquoi pas aussi mettre en lumière l'incompétence de... Antero Henrique.
Ça peut être, ils s'entendent pas les deux. Donc
la conclusion que beaucoup de monde a fait aujourd'hui.
Alors voilà. Non, alors moi, ça serait peut-être plus dire ça, que les deux n'ont pas la même vision ou les mêmes envies.
Et que j'irai pas jusqu'à
la compétence d'Antero ou pour certains peut-être celle de Tourelle, j'en sais rien.
Je pense qu'effectivement je me base par rapport au rapport entre les deux. Hein. Je dis pas que l'autre c'est une pipe, mais
parce qu'on entend beaucoup de choses sur Antero. Après, faut pas tout jeter non plus parce qu'il a fait aussi quand il est arrivé des choses très correctes, ça va dépendre des
prochains mois. Ouais. Si demain tu passes l'écart et que tu vas en demi et imaginons la suite, ils vont dire ouais, c'est un génie, finalement le milieu est pas venu, Marquinhos ça a été le 6 que personne n'avait vu venir.
Bernat, c'est finalement pareil,
on l'appelait tous Jean Bernard et puis c'est lui qui va te marquer le but en demi-finale. Enfin,
et voilà. Et puis il devient un peu comme Maxwell.
C'est les résultats qui te donneront raison ou tort. Si on devait faire un constat à l'heure actuelle, pour moi, ça, il penche plus en sa défaveur qu'en sa faveur quand même.
Quelques infos les gars, avant de passer au drôle de dame, vous dire que Saint-Maximin sera sanctionné par l'OGC Nice. Alors vous avez suivi l'histoire, hein, il a préféré rester chez lui plutôt qu'aller jouer à Angers ce week-end en disant qu'il était malade. Vieira a dit, il décide qu'il est malade, mais pour le docteur il n'y a rien, pas de fièvre. Donc lui se défend en disant j'ai fait qu'une séance avec le groupe cette semaine, j'avais mal à la cheville. Oui, je fais semblant d'être malade, en étant ironique. Bon bref, il va y avoir sanction.
Ça sent pas bon.
Bon, c'est quand même un des meilleurs joueurs de Nice actuellement.
C'est du jamais vu là quand même. Une communication pareille,
public quoi.
Ah ouais, jamais vu.
Bah ça sent aussi que le club qui veut dire la vérité à un moment donné dans les médias quoi, qui veut pas que ce soit mal interprété. Ça sent ça, moi. Enfin ça ressemble à ça en tout cas. Alors après on n'est pas dans l'histoire et dans le club, hein, mais
connaissant Patrick Vieira, pas personnellement, mais quand tu connais le bonhomme,
j'ai pas l'impression.
C'est pas le premier à les balancer comme ça sur la place publique.
Oui, c'est une affaire dessin, tu veux dire.
Ouais, puis il est discret, s'il est pas obligé de le faire, il le fait pas, je pense, ouais, exactement. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui l'y oblige aussi, quoi, qu'à un moment donné, c'est trop. Voilà.
Et puis deux petites infos encore liées au match d'hier soir. Rupture de ligament croisé pour Monet Paquet. On se souvient de l'action hier là quand il frappe au-dessus.
Genou gauche alors. Hein.
Je sais pas quel genou. Hein, c'est pas.
Moi, je crois que c'est le gauche et la jambe où il frappe. C'est rare. Ouais, c'est la jambe d'appui, ça arrive souvent, mais ouais, la jambe où il frappe.
Enfin, c'est vrai. Alors, dans ce genre de situation, c'est rare quand même d'en arriver à se blesser comme ça parce qu'il n'y a pas de contact avec un autre joueur. On voit pas clairement de torsion.
Mais tu sais que c'est pas rare du tout. Il y a plein de croisés. C'est une extension à la tête tout seul et quand tu retombes, claque.
C'est dommage parce que je trouve que depuis son repositionnement comme ça, tu sais, dans une défense à 5 sur le côté droit,
je trouve que
sa carrière prend un tournant un peu différent. Je trouve qu'il est bien meilleur dans ce poste-là.
Il était plus régulier, beaucoup plus régulier que ce qu'il faisait.
C'est dommage parce qu'il était sur une bonne dynamique. Je trouve qu'il avait fait vraiment des bonnes prestations.
Et puis une petite histoire marrante, pas de chance pour des cambrioleurs hier à côté du stade. Ils cambriolaient une maison pas loin de Geoffroy Guichard, sauf qu'il y avait l'hélico de la sécurité publique qui a été appelé par la police et hop, l'hélico Monaco, il allait choper les mecs en quittant le stade, attrapé en tôle. Voilà, comme quoi.
Ouais, il y avait un peu de monde quand même près de Geoffroy Guichard. Ouais.
Le cadeau, comme promis. Écoutez, un jour on est parti à Lille. Il y avait Julien Cazard, Daniel Riolo, coach Courbis. À l'époque, Lille brillait de mille feux. Ludo Aubragnac mettait des coups francs en finale de Coupe de France. Et du coup, Julien avait rendu un hommage appuyé à Ludovic Aubragnac. Messieurs, dames, souvenir.
Aubragnac, il est baraque. Il a tous les tatouages d'un beau black. Il claque super shoes à belle bagouze. On dirait Matt Pokora sur la pelouse. Tu t'en t'attaques, c'est ta jambe à toi qui craque. Ramasse tes œufs, c'est plus dimanche de Pâques. Un goldorak façon Polak. Quand il tente un dribble, c'est le défenseur qui fait une flaque.
Ce mec est définitivement...
Celle-là n'a pas été enregistrée en studio, contrairement à certaines autres qu'on a encore en...
Ah, c'était génial, c'était génial.
Voilà, c'était...
On l'embrasse,
Julien. On l'embrasse, oui. Évidemment. Donc, comme il nous écoute tous les soirs...
Quand t'as une chanson de Julien Cazard, c'est que...
Bah, c'est...
Ah oui, t'existes. Hein.
C'est comme quand t'as la marionnette dans les guignols, non?
C'est mieux.
C'est ça.
C'est mieux. Allez, dans quelques instants, les drôles de l'âme, le foot européen, bien sûr, dans l'after, jusqu'à nuit.
RMC Football Show, l'after foot.